Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour à tous. Et autant la semaine dernière, nous disions que nous aurions mieux fait d'aller nous promener, mais alors autant aujourd'hui, nous sommes plutôt contents d'être à l'abri. Hein. Avant de commencer, je voulais apporter quelques précisions alors concernant certaines questions qui ont été soulevées par quelques-uns d'entre vous concernant les références que je fais au texte des entretiens pendant le cours. Et je pense qu'une mise au point s'impose. Alors, tout d'abord, je rappelle que le repérage dans le texte des entretiens en chiffres romains pour les livres et en chiffres dits arabes pour les sections est une convention purement occidentale. Dans les textes classiques présentés de manière traditionnelle chinois, le repérage se fait uniquement par le titre des livres, titres qui sont un petit peu déroutants effectivement pour une rationalité occidentale puisqu'ils ne font que reprendre les deux premiers mots, hein, quels qu'ils soient, donc des livres. Alors, deuxième remarque, vous avez été quelques-uns donc, à être un petit peu déroutés justement par le fait que les références que je donne en cours ne correspondent pas forcément donc au découpage qui est donné dans ma traduction donc des entretiens qui est paru donc au Seuil. Alors premièrement, je voudrais quand même vous signaler que ma traduction n'est pas la seule. Hein, il y en a un certain nombre d'autres en français. Et alors là, donc, je suis amenée à préciser que le découpage des sections donc à l'intérieur des livres peut varier donc légèrement d'une édition à l'autre et donc aussi d'une traduction à l'autre. Et donc vous avez quelquefois un léger décalage entre le découpage que j'utilise donc dans mon cours et celui donc de ma traduction. Ma traduction en fait a dû utiliser un texte extrêmement compacté, hein, puisque il fallait donc donner le texte chinois à la fin donc de l'édition, mais alors dans une version aussi compactée que possible. Et cette édition est loin d'être la meilleure, mais je l'ai choisie uniquement justement pour sa présentation extrêmement compacte. Donc là, c'est à vous de voir un petit peu en amont et en aval donc des sections que je donne. Hein, donc faites preuve d'un petit peu de souplesse. Et la troisième remarque que j'aurais à faire, c'est que vous aurez sans doute constaté que les traductions que je vous donne en cours sont extrêmement littérales. Hein. Je suis véritablement le texte pratiquement mot à mot. Et par conséquent, là aussi, il y a un décalage par rapport donc à la traduction, à ma traduction du Seuil, qui se veut un petit peu plus littéraire que littérale. Bien, alors, nous en étions restés la semaine dernière à la manière dont le philosophe chinois contemporain Li Zihou relit donc les entretiens et tout particulièrement l'un des passages considérés comme un passage clé, à savoir ce passage justement des entretiens livre 4 section 15 que je ne relis pas mais dont je vous rappelle que il commence par justement une observation donc du maître qui dit donc que son tao, c'est-à-dire sa voix, hein, c'est un principe unique qui le traverse. Donc il y a cette fameuse formule qui revient une autre fois dans les entretiens, donc yi guan zhi. Et cette formule est ensuite commentée par un de ses disciples principaux, le dénommé Zeng Zi, c'est-à-dire donc maître Zeng, qui comprend donc la voix du maître Fu Zi Zhi Dao, Zhong Shu Er Yi, c'est-à-dire elle consiste en Zhong et Shu et rien d'autre. Donc, je vous rappelle que nous avions vu comment la dernière fois, Li Zihou voyait dans la présence du radical, donc du cœur, dans les deux termes, donc Zhong et Shou, même sans lire le chinois, vous constatez qu'il y a un élément commun donc, dans ces deux caractères, donc, qui se situe donc, en bas du caractère et qui est ce qu'on appelle la partie du radical et qui donne donc le champ sémantique général du terme. Et donc ce radical est celui donc, du cœur. Et donc Li Zihou voyait dans cette partie commune à la graphie des deux termes qu'il n'y a pas là donc que de la raison, hein, mais aussi du cœur, c'est-à-dire de l'affectif. Autrement dit, nous avons dans ce couple Zhongshu un principe moral qui permet rationnellement donc la vie en société, mais qui prend aussi racine dans le cœur, hein, c'est-à-dire dans les émotions et les affects de tout un chacun. Donc, en somme, pour Li Zihou, Zhongshu, ce couplet donc, serait une manifestation par excellence de la raison pragmatique hein, qui lui est si chère, hein, de cette fameuse Shiyong Li Xing, hein, dont il parle aussi volontiers. Alors, Li Zihou comprend ainsi Shu, donc comme le fondement de ce qu'il appelle une morale sociale publique, et Zhong comme une exigence de morale religieuse privée. Et ces deux dimensions, donc de à la fois publique et privée, et à la fois donc sociale et religieuse, sont pour lui totalement indispensables. Hein, de la même façon que ces deux termes sont apparemment donc liés de manière indissociable dans l'enseignement de Confucius. Alors, ce que je viens d'évoquer, c'est donc l'interprétation propre à Li Zihou. Donc, c'est une interprétation contemporaine, donc qui est amenée par une lecture tout à fait actuelle et qui se démarque très nettement donc de la tradition commentariale qui l'a précédée. En effet, ce qui a fait problème pour de nombreux commentateurs de la tradition exégétique chinoise, c'est qu'il y a donc deux termes pour expliciter un fil unique. Alors, certains commentateurs l'expliquent par le fait que ces deux termes sont donnés à titre de commentaire donc, par un disciple, hein, ce fameux Zeng Zi, maître Zeng, qui commente de cette manière donc, le fil unique dont parle le maître. Autrement dit, certains de ces commentateurs donc, s'en tirent d'une certaine manière en disant « bon, finalement, ce n'est pas le maître lui-même qui l'a dit, c'est donc un de ses disciples ». Alors, d'autres commentateurs s'interrogent sur le sens à donner à ces deux mots, hein, et sur le rapport à établir entre eux. Est-ce que donc quelle est la nature du lien donc qui fait qu'ils apparaissent indissociables? Alors, le problème, c'est que s'il y a plus ou moins consensus sur l'interprétation donc, de ce mot chaud, dont je vous rappelle hein, la glose ancienne, hein, c'est-à-dire donc vous avez donc ce radical du cœur en bas et en haut donc un caractère qui établit une équivalence, hein, qui est à peu près l'équivalent de notre conjonction comme, hein, et qui indiquerait donc dans la graphie même donc du caractère une sorte d'équivalence des cœurs, hein, c'est-à-dire mettre en équivalence mon cœur avec celui d'autrui. Donc ce terme qui est commenté par Confucius, justement par la fameuse formule de la règle d'or, hein, c'est-à-dire ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Hein. Donc ce terme-là bon, apparaît de manière relativement claire comme désignant une forme de considération pour autrui, hein, une sorte de capacité de se mettre à la place des autres, c'est-à-dire donc de juger des désirs d'autrui à partir de ses propres aspirations. Alors, en revanche, les avis divergent assez largement sur la compréhension de l'autre mot, hein, c'est-à-dire donc ce mot chong, en tant que relié donc à chaud, et sur lequel donc Confucius lui ne dit rien. Hein, encore une fois, ces deux termes sont introduits par un disciple et non par Confucius lui-même. Alors, comme on l'a dit, Li Zihou reprend dans ses grandes lignes l'interprétation canonique de Zhu Xi, donc le grand exégète du XIIe siècle de l'ère chrétienne, qui dit que pour lui, chong veut dire donc aller jusqu'au bout de soi-même. Hein. Donc en exploitant là aussi la glose ancienne de chong, c'est-à-dire donc vous retrouvez ce radical du cœur et au-dessus donc le graphème qui se prononce lui aussi chong et qui veut dire donc être au centre, hein, ou être au milieu, hein. Autrement dit, donc là le mot serait à comprendre comme le fait de rester donc centré sur soi-même, hein, non pas dans le sens d'un égocentrisme, mais de rester en quelque sorte fidèle à soi-même, fidèle à ses principes et aller donc jusqu'au bout de ses principes. Mais alors, si l'on en juge par les autres occurrences de ce mot dans les entretiens, et je vous rappelle qu'on en dénombre 16, hein, alors qu'il n'y a que deux occurrences de l'autre mot « chou », il ressort de ces nombreuses occurrences que le terme désignerait plutôt, hein, le sens de ces obligations rituelles, notamment donc dans un contexte politique et social hiérarchisé, donc le sens de ces obligations vis-à-vis des gens qui sont placés plus haut dans la hiérarchie, hein, vis-à-vis de ces supérieurs. Et donc dans les entretiens, Chong est en effet présenté comme ayant un rapport avec un autre mot-clé donc, dans le vocabulaire confucéen, le mot « li », hein, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, mais donc je traduirai provisoirement par le sens des rites. Et donc, vous avez une occurrence donc, dans les entretiens au livre 3, à la section 19, où le mot « chong » que vous retrouvez ici, je l'ai surligné en jaune ici, est très clairement donc, associé à ce mot « li », donc le sens des rites. Alors, je lis le passage en question, qui est un dialogue entre donc, le maître, non pas un disciple, mais un des ducs, un des souverains donc du pays de Lo, qui est donc le pays natal de Confucius. Donc, dans les entretiens, on voit Confucius très souvent en dialogue avec des disciples, mais aussi avec des grands du monde de son époque, hein, qui viennent le consulter, notamment justement pour l'art de gouverner. Et là, c'est le cas ici. Ding Gong Wen, Jun Shi Chen, Chen Shi Jun, Ru Zhi He. Donc, ce duc Ding de Ding de Lu, donc demande si le Jun, c'est-à-dire donc le souverain ou le prince, commande à ses sujets ou à ses ministres. Et que ces ministres servent leur prince, qu'est-ce qu'il faut en penser, hein? Ça, c'est une formule qui revient très souvent justement dans le questionnement des gens qui viennent trouver Confucius dans les entretiens, hein? C'est donc si je fais ça ou si on fait ça, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, la question, hein, est très, comment dire, clairement sur un rapport hiérarchique, c'est-à-dire donc nous avons une configuration où le prince commande à ses subordonnés et les subordonnés le servent, hein, sont à son service. Et alors le maître répond ceci, Kongzi Dui Yue, Jun Shi Chen Yi Li. Chen Shi Jun Yi Zhong. Il vaudrait mieux préciser, donc, le prince commande à ses subordonnés, que ce soit ses sujets ou ses ministres, donc, par le sens des rites. Les ministres ou les subordonnés, donc, doivent servir leur prince, hein, par justement Zhong. Donc le sens de leurs obligations rituelles. Justement, cette traduction de zhong par obligation rituelle est amenée précisément par la mise en parallèle avec cette formule donc réciproque, hein, c'est-à-dire donc le prince commande donc à ses ministres par le sens des rites, hein, et c'est s'il fait ça, hein, que ses subordonnés peuvent le servir donc avec le sens de leurs obligations rituelles. Mais donc cette conception ritualisée donc de zhong semble avoir été en quelque sorte durcie dans le sens d'une hiérarchisation formalisée dans un ensemble de textes qui sont des textes à teneur très fortement normative et qui datent tous à peu près donc de la fin de l'Antiquité, hein, c'est-à-dire autour donc du 3e, 2e siècle avant l'ère chrétienne, hein, c'est-à-dire au moment où s'instaure donc le premier empire centralisé, hein, dont je vous rappelle qu'il a été donc, disons, officiellement proclamé donc en 221, donc avant l'ère chrétienne, par le fameux premier empereur Qin Shi Huang. Cet ensemble de textes, je pense que c'est intéressant justement de voir un petit peu ce qu'il dit sur la question. Vous avez d'abord un extrait qui est donc la section 13 d'un texte qui s'intitule en chinois le Zhongyong. Alors le Zhongyong, c'est un titre qu'on a trouvé très difficile à traduire, disons, la traduction conventionnelle de Séraphin Couvreur, donc missionnaire donc en Chine au début du XXe siècle, a traduit, si je ne m'abuse, par il me semble le milieu juste ou quelque chose comme ça, qu'on pourrait aussi traduire par le milieu adapté ou le milieu adéquat. Alors ce texte, dans sa section 13, donc, nous dit ceci. Chongshu. Alors là, vous retrouvez donc justement les deux termes qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, Chongshu, Wei Tao Pu Yuan. Shi Zhu Ji, Er Pu Yuan. Yi Wu Shi Yu Ren. Alors donc, dans cette première phrase, vous retrouvez justement une formulation qui est assez proche de celle qu'on trouve dans les entretiens. Donc, Chong et Shu ne sont pas loin du Tao. Ce que tu ne souhaites pas que l'on te fasse, ne le fais pas davantage aux autres. Donc là, vous avez, dans une formule légèrement différente, une sorte de variante, la formule, la fameuse formule que l'on trouve dans les entretiens. Et le texte poursuit de cette manière. Alors là aussi, même sans lire le chinois, vous voyez qu'il y a justement une très forte formalisation du texte. Vous voyez qu'il y a des formules parallèles qui reviennent. Alors, la phrase suivante vous dit ceci. « Jun zi zhi dao si, qiu wei neng yan. » Donc le Tao, donc la voie de l'homme de bien, comporte donc quatre principes ou quatre aspects. Qiu, c'est la façon dont Confucius se désigne lui-même. Il se désigne par son nom personnel, puisque en fait l'état civil, si j'ose dire, de Confucius, c'est Krong Qiu. Donc Qiu, c'est son nom personnel. Donc, et moi, Qiu, Wei Neng Yan, c'est-à-dire je ne suis pas encore capable de réaliser ces quatre aspects donc de la voie de l'homme de bien. Et ensuite nous avons le détail donc de ces quatre aspects. Alors, suo qiu hu zi yi shi fu wei neng ye. Suo qiu hu chen yi shi jun wei neng ye. Suo qiu hu di yi shi xiong wei neng ye. Suo qiu hu peng you xian shi zhi. Donc là, vous percevez donc ces formules parallèles qui vous donnent donc les quatre aspects dont il a été question. Alors, ce que tu exiges de ton fils, fais-le pour servir ton père. Et ce principe-là, moi, Qiu, donc moi, Confucius, je n'en suis pas encore capable. Ce que tu exiges de ton ministre ou de ton subordonné, fais-le pour servir ton prince. Et cela, je n'en suis pas encore capable. Ce que tu exiges de ton frère cadet, fais-le pour servir ton frère aîné. Et cela, je n'en suis pas encore capable. Et ce que tu exiges d'un ami, 朋友, soit donc le premier à le faire pour lui. Et ça, je n'en suis pas encore capable. Alors, donc, vous avez ici, dans ce texte, déjà, une très forte, à la fois, formalisation du texte, que vous pouvez tous remarquer. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi, justement, de vous montrer les textes, même si je suis bien consciente que certains d'entre vous ne lisent pas couramment le chinois, et encore moins donc le chinois ancien, mais vous voyez déjà la façon dont les textes se présentent formellement. Et cette formalisation donc correspond donc à une formalisation donc d'une conception très nettement hiérarchisée. Et alors de la même façon, donc vous avez dans un autre texte qui date à peu près de la même époque, un chapitre peut-être tardif du Xunzi, qui est attribué donc à un penseur du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, qui porte ce nom de Xunzi, donc Maître Xun. Il s'agit donc du chapitre 30 de ce corpus textuel, donc de ce livre, s'intitule donc ce chapitre 30 s'intitule le Faxing, c'est-à-dire donc l'application donc des lois. Donc là, on a supposé qu'il y avait peut-être justement quelque chose de tardif dans la mesure où il y a une forte connotation donc légiste dans ce chapitre. Et donc on a un passage qui semble commenter en fait le texte précédent tiré du Zhongyong. Alors je vous lis donc cet extrait du chapitre 30 du Xunzi. Kongzi yue, Junzi you san shu. Donc Maître Kong dit. Donc là, vous remarquez que ici, on ne le nomme pas le maître, mais on l'appelle par son nom de famille. Donc, Maître Kong dit, l'homme de bien, donc, a trois sancho, c'est-à-dire donc trois réciprocités, trois relations de réciprocité. À savoir, donc là vous voyez que nous en avons trois au lieu de quatre, mais le texte est construit un petit peu de la même façon que le texte précédent, hein, c'est-à-dire de manière parallélistique. Alors, Yo Jun, Puneng Shi, Yo Chen, Er Qiu Qi Shi, Fei Shu Ye. Donc, avoir un prince qu'on n'est pas capable de servir, tout en ayant un ministre dont on exige le service, ce n'est pas chaud, c'est-à-dire ce n'est pas respecter donc le principe de réciprocité. Yo qin pu neng bao. J'en suis donc à la deuxième ligne. Donc yo qin pu neng bao. Yo zi er qiu qi xiao, fei shu ye. Avoir un parent à qui on n'est pas capable de manifester sa gratitude, tout en ayant un fils dont on exige la piété filiale, ce n'est pas respecter le principe de réciprocité. Yo xiong bu neng jing, yo di er qiu qi ting ling, fei shu ye. C'est-à-dire donc avoir un frère aîné à qui on n'est pas capable de manifester du respect, tout en ayant un frère cadet dont on exige l'obéissance, ce n'est pas donc respecter le principe de réciprocité. Shi ming yu zi san shu, ke yi duan shen yi. Donc un shi, et je vais commenter immédiatement donc ce terme. Je le comprends donc provisoirement par donc un adepte de la voie qui comprend clairement ces trois principes de réciprocité, aura de quoi, hein, pourra donc avoir les moyens, littéralement, de tuan shen, c'est-à-dire donc littéralement de se redresser lui-même. C'est-à-dire tuan, c'est tuan zheng, c'est-à-dire donc remettre droit, hein, sa propre personne, hein, c'est-à-dire donc il aura les moyens, hein, de se rectifier lui-même. Alors petit commentaire justement sur ce terme de shi, hein, qui est souvent glosé justement par un autre mot qui se prononce de la même manière et qui s'écrit avec le radical de l'homme devant, hein, et écrit de cette façon. Donc ce mot veut dire être au service de quelqu'un, donc servir, hein. Et alors c'est un terme qui désigne donc dans l'Antiquité pré-impériale une catégorie donc d'hommes de service, littéralement, intermédiaire entre donc l'aristocratie nobiliaire et le commun du peuple. Et c'est un terme qu'on trouve de manière récurrente donc dans les entretiens, où il désigne assez clairement donc un homme qui est justement adonné à la pratique que préconise Confucius, c'est-à-dire un homme qui recherche justement le Tao, c'est-à-dire la bonne méthode justement pour devenir un homme de bien. Donc là, je crois que ce terme de shi a autant de connotations donc sociales. Donc c'est un homme qui est appelé à servir, et en même temps qui est au service non seulement d'un prince, mais au service aussi d'une certaine idée donc de la voie morale. Alors, ce principe de réciprocité donc est également illustré sans que soit donc mentionné ce fameux terme de shu dans un autre texte de la même époque que les précédents, c'est-à-dire donc fin de l'Antiquité. Et vous remarquerez aussi que dans ce texte, la formalisation et même on pourrait dire le souci de symétrie est poussé à l'extrême. Là, vous voyez comment le texte se présente. Là aussi, vous retrouvez ces mêmes formes parallélistiques. Ce texte, c'est un texte qui est souvent justement couplé avec celui du Zhongyong, c'est-à-dire donc du milieu juste. C'est le texte qu'on appelle la grande étude, le Ta Xue. Et vous avez donc cet extrait à la section 10 de la grande étude. Donc, so wu yu shang, wu yi shi xia, so wu yu xia, wu yi shi shang. Je lis l'intégralité du texte. Donc, so wu yu qian, wu yi xian hou, so wu yu hou, wu yi hou qian, so wu yu yu, wu yi jiao yu zuo, so wu yu zuo, wu yi jiao yu yu, ci zhi wei, xie ju zhi dao. Alors, donc, ce que tu n'aimes pas chez tes supérieurs, ne le fais pas en employant tes subordonnés. Ce que tu n'aimes pas chez tes subordonnés, ne le fais pas en servant tes supérieurs. Ce que tu n'aimes pas chez celui qui te précède, ne le fais pas en devançant celui qui te suit. Ce que tu n'aimes pas chez celui qui vient derrière toi, ne le fais pas en suivant celui qui te précède. Ce que tu n'aimes pas chez celui qui est à ta droite, ne le fais pas en traitant avec celui de gauche. Ce que tu n'aimes pas chez celui de gauche, ne le fais pas en traitant avec celui de droite. Voilà ce qu'on appelle le Tao, donc la voie de la règle. Vous avez ici donc cette expression xietu. Xietu, c'est quelque chose qui permet de mesurer. Donc là, c'est le Tao de la mesure, si vous voulez, le Tao de la règle qui permet d'établir une mesure. Alors, ces trois passages qui sont tous donc extraits de textes de la même époque, de cette fin de l'Antiquité, montrent bien que au moment de l'instauration donc du premier empire centralisé, la relation humaine est d'emblée conçue comme inscrite socialement, c'est-à-dire inscrite hiérarchiquement et politiquement. C'est-à-dire hiérarchie et ordonnancement qui se traduisent, comme on vient de l'observer, donc, dans la forme même des textes. C'est-à-dire, vous avez dans ces textes que vous avez sous les yeux, donc, un degré très poussé donc, de formalisation, avec justement ces effets de parallélisme et ces effets de symétrie hein, dans le dernier extrait. Alors, cet ensemble de textes, évidemment, a porté un certain nombre de commentateurs, alors non seulement dans la tradition exégétique chinoise, mais aussi chez certains commentateurs occidentaux, notamment américains, donc les apporter à pousser à l'extrême donc une interprétation de type hiérarchique. Je pense en particulier donc à l'interprétation que donne donc de cette règle d'or, hein, cette règle de réciprocité, le grand sinologue américain David Nevison, qui, dans un texte de 1984, hein, qui est reproduit dans un volume qui s'appelle The Ways of Confucianism, donc les voies hein, du confucianisme, pousse à l'extrême justement cette interprétation hiérarchique, hein, dans la mesure où pour lui, donc, Shu, donc, il le comprend comme la réciprocité avec ses égaux ou ses inférieurs, et Chong, donc, comme principe de réciprocité avec les supérieurs. Hein. Autrement dit, nous aurions dans cette interprétation un champ de réciprocité dans lequel on se trouve constamment en situation, c'est-à-dire quand on est au service d'un supérieur, donc il s'agit de prendre en considération la manière dont on aimerait être servi si on était à sa place, et quand on est servi par un inférieur, il s'agit de prendre en considération donc la manière dont on aimerait être traité si on était à sa place. Certes, comme on le sait, ce terme de Chong, donc que j'ai compris provisoirement dans le contexte des sources anciennes, donc comme les disons un ensemble d'obligations rituelles, ce terme de Chong en est venu surtout à partir des Han, c'est-à-dire au début donc du premier empire centralisé. Donc les Han, je vous rappelle que ils ont duré 4 siècles entre le début du 2e siècle avant l'ère chrétienne jusqu'à la fin du 2e siècle de l'ère chrétienne. Donc sous les Han, donc ce terme en est venu à désigner presque exclusivement la loyauté donc d'un ministre ou d'un sujet envers son prince. Dans ce contexte, il a été le plus souvent donc apparié dans un rapport analogique avec la piété filiale. Autrement dit, vous avez dans l'ordre hiérarchique du premier empire centralisé ce discours idéologique qui consiste donc à fonder la loyauté donc des inférieurs envers leurs supérieurs hein, dans une relation fondée en nature, si vous voulez, c'est-à-dire une relation de sang entre le père et le fils. Hein, c'est-à-dire que vous devez la loyauté envers votre prince de la même façon que vous êtes tenu hein, par les liens du sang d'aimer votre père, manifester donc respect et révérence donc de manière. Alors là, vous voyez évidemment tout ce qui peut y avoir d'idéologique justement dans cette forme de discours. Hein. Et alors malheureusement pour nous, évidemment, Chong en est venu justement à désigner cette espèce de loyauté presque lecture inconditionnelle vis-à-vis des supérieurs. Mais je voudrais quand même justement insister sur le fait que dans les sources anciennes, notamment dans les entretiens de Confucius, ce n'est pas le sens qui est donné. Alors, le problème, justement, dans cette configuration justement purement hiérarchique, c'est que la relation humaine ne circule que de haut en bas et de bas en haut, c'est-à-dire dans un sens uniquement vertical. Mais alors, le problème pour des commentateurs comme Nevesson, que je viens de citer, c'est que cette interprétation étroitement hiérarchisante n'a pas fait beaucoup d'adeptes. Parce que le problème, c'est que justement, que faisons-nous justement de chaud dans cette dans ce contexte, hein, si on le comprend uniquement comme finalement le comment dire l'envers de Zhong, hein, Zhong étant dirigé vers le haut et chaud vers le bas, je pense qu'il s'agit d'une interprétation assez réductrice, hein. Le problème pour nous dans les entretiens, c'est que aussi bien Zhong que Shou donc sont dans le texte des entretiens donc très souvent rapportés à la thématique qui est la thématique centrale de l'enseignement de Confucius. À savoir donc cette thématique du ren, hein, c'est-à-dire donc de ce que j'ai présenté la dernière fois comme justement le sens de l'humain. Hein. Autrement dit, le fait que les entretiens mettent en rapport, hein, la thématique du zhong et du shou avec cette valeur centrale de l'enseignement confucéen nous dit bien que dans l'esprit donc des entretiens en tout cas, hein, zhong ne peut pas, enfin zhong et shou ne peuvent pas être réduits simplement à une relation de hiérarchie, hein. Alors la relation qu'il y aurait donc entre ce terme de zhong et la thématique du jeune, hein, nous la trouvons par exemple dans une occurrence du livre 5 des entretiens à la section 19, où là donc vous avez un dialogue entre un disciple et le maître. Nous, là nous sommes dans une configuration tout à fait classique dans des entretiens, hein. Vous avez donc ce disciple Zizhang, hein, qui vient demander Zizhang Wen Yue. Alors, Ling Yin Zi Wen, San Shi Wei Ling Yin, Wu Xi Se, San Yi Zhi. Là, je m'aperçois que vous n'avez pas le texte en entier. Alors, attendez, voyons. Fermez ça, voilà, ça c'est mieux. Bien, alors donc Lin Yin Zi Wen, San Shi Wei Lin Yin, Wu Xi Se, San Yi Zhi, Wu Yun Se, Jiu Lin Yin Zhi Zheng, Bi Yi Gao Xin Lin Yin, He Ru. Donc Zi Zhang, donc le disciple, vient demander. Premier ministre, Lin Yin, c'est un titre, donc le premier ministre Zi Wen fut par trois fois donc nommé premier ministre. Alors là, vous retrouvez donc ce mot Shi auquel je faisais allusion tout à l'heure, hein, ici écrit donc avec le radical de l'homme, hein, et qui veut dire donc être au service, hein, être en service, hein, servir. Donc il fut par trois fois nommé donc dans la fonction de premier ministre, hein, sans donner donc de signe de contentement. Hein, c'est-à-dire, littéralement, il n'avait pas de, comment dire, de visage content. Hein. Et par trois fois, hein, il a été démis de sa fonction, hein, sans donner de signe de ressentiment. Oui, c'est... Donc par trois fois il est nommé et par trois fois il est démis, hein, et sans que on note de comment dire de satisfaction ou de mécontentement particulier. Et chaque fois qu'il a eu donc justement à se démettre, il a tenu donc à informer. Le nouveau ministre des affaires qu'il avait traitées en tant que Jiulin, en tant qu'ancien ministre. Autrement dit, là, vous avez une passation de pouvoir. Alors, évidemment, ce n'est pas une passation de pouvoir à la mode républicaine, hein, mais quand même, enfin, vous avez ce ministre extrêmement scrupuleux qui, même si on le débarque, en quelque sorte, hein, a à cœur, justement, de mettre au courant son successeur, c'est-à-dire celui qu'il a chassé de sa fonction. Il pourrait évidemment, enfin, lui laisser se débrouiller tout seul, hein, dans son poste, mais enfin bon, il pousse le scrupule jusqu'à l'informer donc de ce qu'il de ce qui reste à faire. Et alors donc la question du disciple est rejoue toujours donc qu'est-ce qu'il faut penser donc d'un homme comme celui-là. Et le maître répond Ziyue Zhongyi, hein, c'est-à-dire donc cet homme-là, hein, c'est quelqu'un qui avait le sens de ses obligations rituelles. Alors le disciple reprend donc Yue Renyi Hu. Est-ce qu'il faut considérer qu'il avait le sens de l'humain? Et la réponse Yue Wei Zhi Yan De Ren. Alors là, justement, la réponse de Confucius est tout à fait significative, c'est-à-dire il répond « Je ne peux pas encore le dire, je ne peux pas encore le savoir, hein, d'après ce qu'en dit donc, le disciple, puisque, sous-entendu, s'il n'a que cette qualité, donc justement, s'il n'a que le sens de ses obligations rituelles, comment est-ce que on pourrait considérer qu'il a atteint le sens de l'humain? Donc là, vous avez un passage où cette qualité justement de Zhong est mise en rapport avec donc ce qui fait le cœur même donc de l'enseignement de Confucius. Alors maintenant, il s'agit de voir justement si l'autre terme, donc shou, est mis en rapport justement avec ce sens de l'humain, donc dans les entretiens. Alors là, nous avions vu justement dans une première occurrence, c'est-à-dire donc dans ce fameux passage du livre 6, section 30, que justement Confucius établit réellement ce lien, puisque il nous parle de Ren, c'est-à-dire de ce sens de l'humain, en l'illustrant par la règle de réciprocité, c'est-à-dire donc justement tu désires t'établir, il faut désirer établir aussi autrui, etc. Donc vous avez cette première occurrence dans le livre 6, et vous avez une autre occurrence importante au début du livre 12, donc à la section 2, où vous avez donc là aussi un dialogue entre un disciple et le maître. Zhonggong Wen Ren, c'est-à-dire donc le disciple Zhonggong vient demander au maître ce qu'est le Ren, c'est-à-dire donc ce sens de l'humain. Et le maître répond Ziyue Chu Men Ru Jian Da Bin 使民如承大计，己所不欲，勿施于人，在邦无怨，在家无怨。Donc le maître répond, littéralement quand tu sors de chez toi, hein, 出门, c'est-à-dire quand tu sors hors de tes portes, hein, quand tu es, disons, en société, comporte-toi comme si tu recevais un tapin, c'est-à-dire un hôte, un invité de marque. Et quand tu chemines, c'est-à-dire quand tu es dans la situation de gouverner le peuple, c'est-à-dire quand tu es dans la position du souverain, comporte-toi comme si tu officiais à un ta'ji, c'est-à-dire à un grand sacrifice. Ensuite vient la fameuse formule, donc ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et de cette manière, que ce soit à l'échelle donc d'un pays ou à l'échelle de d'une famille, pan ou tia, hein, tu ne rencontreras aucun, tu ne susciteras aucun ressentiment. Et donc le disciple répond, hein, par une formule toute faite, donc Zhongong Yue, Yong Sui Bu Min, Qing Shi Si Yu Yi, c'est-à-dire donc. Il répond, il se désigne lui-même par son nom personnel, Yong, hein, moi Yong, hein, même si je ne suis pas très, très vif, très intelligent, hein, littéralement je demande la permission donc, d'appliquer donc, ce que vous avez dit. Hein. Donc ça, c'est la formule consacrée quand vous êtes un bon disciple devant votre maître. Vous dites oui, certes, je suis pas très 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 vif à la compréhension, hein, mais je vais faire tout ce que je peux pour appliquer ce que vous m'avez enseigné. Hein. Alors donc, on comprend d'après ce passage que ce sens de l'humain, hein, au fond, est équivalent donc du fameux shou, hein, puisque il est illustré justement par cette même formule, hein, ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres, hein, que nous avions déjà rencontré donc dans cette occurrence du livre 15, section 24. Où justement le maître disait que un mot unique qui serait susceptible d'être pratiqué pendant toute une vie, hein, c'est précisément le mot « shou », hein, et il l'illustre exactement par la même formule. Donc là, nous avons, à partir de ces deux occurrences, donc, en quelque sorte, la démonstration du fait que dans l'esprit donc, du maître, hein, Shu est véritablement à rapporter très très directement donc à comment dire ce principe de l'humanité. Alors il se pourrait bien donc que la règle de réciprocité, hein, qui semble issue d'une préoccupation en fin de compte assez utilitariste, soit précisément révélatrice d'une relation proprement humaine, hein, dans laquelle je ne considère l'autre ni comme un objet, hein, ni comme un animal dangereux, mais comme un être humain qui me renvoie à ma propre humanité. Ou si vous voulez, en d'autres termes, cette règle de réciprocité, hein, n'est pas seulement utile à la vie en société. Nous avions vu au début que finalement cette règle de réciprocité, on la trouve justement dans pas mal, comment dire, de sagesse populaire, hein, de par le monde, hein, et que elle est en général considérée avec une certaine condescendance, voire un certain mépris, par les philosophes, hein, qui trouvent que là il n'y a pas de quoi fonder une morale, hein, justement au motif que nous avons là un principe qui pourrait se réduire à comment dire, finalement, le principe de l'intérêt ou de l'utilitarisme. Autrement dit, ici, ce qu'on voit justement apparaître dans les entretiens, à travers toutes ces occurrences que je vous montre, donc, que cette règle de réciprocité donc, n'est pas seulement utile pour la vie en société, mais plus fondamentalement, elle la rend possible. Elle crée donc les conditions de possibilité de la vie en société. Et c'était précisément, justement, je pense, l'interprétation de cette exégète du XIIe siècle, Zhu Xi, dont je vous rappelle la formule Jin ji zhi wei zhong, Tui ji zhi wei shu, c'est-à-dire, donc, comment dire, aller jusqu'au bout de ses capacités, sous-entendu morale, c'est ce qu'on appelle chong, et étendre cela à partir de soi, c'est ce qu'on appelle shu. Et donc, je pense que ici, dans cette interprétation, qui est donc celle qui est reprise par Li Zihou, on a justement le lien qui fait que ces deux notions sont totalement indissociables, puisque ce qui est important, c'est que au fond, au fond, ce qui est en question ici, c'est la grande question de ce qui peut constituer au fond le moteur effectif de l'agir moral. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment la grande question que se sont posées justement tous ceux qui ont réfléchi un petit peu au problème éthique. Qu'est-ce qui peut bien me conduire à agir moralement ? Et ça, c'est une question qui a véritablement constitué la préoccupation centrale et constante de la réflexion confucéenne tout au long de son histoire. Et donc, je vais en terminer pour aujourd'hui là-dessus. Je pense que c'est important justement de voir quel est le lien entre le fait justement de commencer par travailler sur soi pour ensuite étendre justement ce travail sur soi à autrui. Donc, pour aujourd'hui, je suis obligée d'en terminer là. Nous allons devoir reprendre la prochaine fois. Mais je vous invite donc à réfléchir là-dessus et éventuellement à rapporter ça justement à des problèmes d'actualité. Je ne précise pas, mais vous savez, le problème effectivement de toute loi morale, c'est qu'elle est en général valable pour les autres. Donc je pense qu'il est important justement que nos confucéens nous rappellent que ça commence par soi-même. Merci de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.